L'arbre s'était penché comme pour mieux se protéger. Aujourd'hui, les branches de ce pin fatigué forment le meilleur abri. C'est son rôle. En dessous, une famille, trois regards, trois directions différentes. C'est une photo de la paix retrouvée et des regards perdus qui l'accompagnent à Raqqa, en Syrie. Et elle est prise par le photoreporter turc Bülent Kilic. Bienvenue à tous sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h50. C'est un étrange phénomène. Des morts, des blessés par centaines chaque année sans existence. Pas de statistiques complètes, peu d'annonces médiatiques. Il a fallu qu'un compte Twitter commence à les compter, ces morts. Pas d'existence sociale. Cela veut-il dire pas de responsable? La question se pose au niveau politique, juridique. Une législation existe et évolue en matière d'accidents du travail, mais prend-elle suffisamment en compte les évolutions du monde du travail, la précarisation de certains métiers, l'ubérisation de certains travailleurs? Comment cette prise en compte des accident du travail pourrait nous aider à dessiner les contours et les évolutions du monde du travail. C'est le sujet dont nous allons parler en ce premier plateau.
Le magazine du week-end, Émilie Chaudet.
Et nous allons en parler avec Georges Munoz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université de Brest et spécialiste en sociologie du travail et de la santé au travail. En face de vous, Rachel Saada. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate, spécialiste en droit du travail et de la sécurité sociale et de la protection sociale. Et au téléphone, nous sommes avec Mathieu Lépine. Bonsoir. Bonjour, pardon.
Bonjour.
Vous êtes un professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis et l'auteur d'un recensement des accidents du travail en France via une veille médiatique que vous faites vous-même, parfois aidé d'autres internautes, recensement que vous tenez à jour sur les réseaux sociaux sur une page intitulée « Silence des ouvriers meurt ».
On travaillait vraiment sur le bord de la rigole, mais alors vraiment sans aucune protection. Et depuis l'accident mortel, maintenant on met des cages, des barrières, donc c'est un peu plus sécurisé, quoi. Quand on retourne au boulot, qu'on se retourne devant cette rigole, on se dit « mince, le mec est tombé là-dedans quand même ». C'est un drôle de sentiment. Et voilà comment ce truc-là ça a pu arriver. Donc on peut tout analyser. C'était un malheureux petit intérimaire, ça faisait pas longtemps qu'il était là. Voilà, quoi. 5 mois sur un plancher de coulée, c'est dangereux, ça rigole pas un plancher de coulée. Donc en 5 mois, on peut pas prendre notre boulot de fondeur, c'est pas possible, quoi. Voilà, le système fait que maintenant on travaille avec des petits gamins qui n'ont pas d'expérience, que c'est toujours produire, et il n'y a que ça qui compte, quoi.
Alors, sur Dunkerque, on a quand même un triste record, hein. 3 morts en moins de 8 mois, donc principalement des sous-traitants et des intérimaires, hein, faut quand même le préciser, et des jeunes.
C'est-à-dire on renouvelle pas les départs ou très peu les départs, on a un volet important d'intérimaires, on sous-traite énormément. On tire sur les prix, donc les sous-traitants sont aussi un petit peu pris à la gorge. Donc eux font aussi appel aux intérimaires qui ne sont pas forcément formés sur nos sites, sur nos métiers, ce qui fait qu'on arrive à des situations accidentogènes, quoi. Il n'y a pas photo. Hein.
Extrait d'un documentaire diffusé dans l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture le 28 juin 2018. Pascal Pascariello est parti recueillir les témoignages de salariés ou anciens salariés d'Arcelor en disant 500 accidents mortels ont eu lieu dans cette entreprise, nous apprend ce documentaire. Et dans ce son, outre la conscience du danger, il y a aussi ce constat de plus en plus d'intérimaires, de jeunes travailleurs sans expérience, donc peu formés au métier et peu formés au risque de leur métier, sont appelés à effectuer des tâches dangereuses, qui rejoint aussi le constat de la DARES, Direction de l'Animation, de la Recherche, des Études et des Statistiques, qui a observé que 52% des employeurs interrogés n'entreprenaient aucune action de prévention des risques physiques dans leur entreprise. C'est une hausse de 9 points de plus par rapport à 2013. Alors comment est-ce qu'on explique cela, Georges Munoz? Est-ce que ça coûte trop cher de mettre au point des mesures de prévention des risques dans une entreprise?
En fait, souvent, donc, l'accident du travail n'est pas vu de ces points de vue-là. Donc, la DARES ou la Caisse nationale d'assurance maladie rappellent en fait les coûts directs, si on parle du point de vue strictement financier, des coûts indirects en fait dus à un accident du travail. Et depuis quelques années, ces tarifs ont été récalculés, donc pour justement inciter les employeurs à investir. Alors il y a un paradoxe ces dernières années, c'est qu'on assiste en fait à une baisse donc des normes d'accident du travail, hein, donc entre guillemets, mais les coûts en fait ont augmenté. Et cette augmentation des coûts, elle est due à plusieurs facteurs. Donc, premièrement, donc à la question justement des coûts déjà des soins, donc qui s'impliquent, parce qu'on a affaire effectivement à une baisse d'accident du travail. Mais par contre, ces accidents du travail sont beaucoup plus graves, donc et par conséquent, donc les soins donc plus longs également. Et les entreprises, là, on va assister donc à une inégalité assez importante entre les entreprises, parce que vous avez, on va dire, les grosses entreprises, donc qui vont avoir des services de prévention, qui vont embaucher des préventeurs, qui vont faire intervenir des services internes de médecine du travail. Et à l'autre bout, donc vous allez avoir donc petites entreprises de 10 salariés, 20 salariés, dans lesquelles, bien sûr, les questions d'investissement en termes donc des préventions ne sont pas les mêmes. Donc déjà, il faut regarder donc cette question des préoccupations donc pour la question des risques professionnels en fonction du secteur, de la taille d'entreprise également. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne des comptes, mais sur lesquels il est certain qu'on va y revenir.
Est-ce que ça veut dire que ça coûte plus cher à une petite entreprise de mettre au point des mesures de prévention, Rachel Saada ?
Alors c'est toujours difficile de répondre de manière uniforme, parce que il est vrai que il y a toutes sortes de mesures de prévention, mais j'aurais tendance à dire que la première mesure de prévention, ce serait qu'il y ait moins de sous-effectifs dans les entreprises et que le salarié ne soit pas amené à remplir un poste et demi, voire deux postes. Donc la première cause d'accident du travail, c'est souvent la surcharge de travail, la polyvalence imposée, et la course contre le temps. Mais il va de soi, évidemment, comme vient de le dire Monsieur Nunez, que il y a une inégalité entre grandes et petites entreprises et que le coût peut parfois être important pour les petites entreprises. Mais au départ, je crois que la prévention première concerne l'organisation du travail.
Alors tout à l'heure, Georges Munoz, vous disiez avec prudence que le nombre d'accidents du travail avait baissé parce que pour cause, il n'y a pas de statistiques fixes, une absence de chiffres. Les seuls chiffres dont on dispose, ce sont ceux du régime général de l'assurance maladie qui ne recense que les salariés du secteur privé en termes d'accidents du travail, donc pas du tout ceux de la fonction publique ni les travailleurs indépendants. Mathieu Lépine, vous tenez les comptes des morts des accidents du travail avec un récapitulatif chaque semaine, et vous avez publié récemment un récapitulatif sur 6 mois de janvier à juin 2019, et ainsi on apprend qu'en 6 mois 469 accidents graves ou mortels, parmi lesquels 172 décès ont eu lieu au travail, et parmi les secteurs les plus touchés, les ouvriers du BTP avec les chauffeurs routiers et les autres ouvriers. Il y a une normalisation de la question des accidents du travail. Est-ce que cette absence de recensement global, que vous faites, vous, de manière particulière, à titre personnel, et que vous partagez sur les réseaux sociaux, comment on peut expliquer qu'elle n'existe pas d'un point de vue, qu'elle n'existe pas officiellement, Mathieu Lépine ?
Oui, alors pour revenir sur mes chiffres qui ont le mérite d'exister, il faut quand même noter que malheureusement, on est, à mon avis, et c'est même certain, bien en deçà de la réalité, parce que moi, ces chiffres, ce ne sont uniquement que les chiffres basés sur ce que j'ai pu recenser. Et moi, mon recensement, il se base sur ce que je trouve sur Internet, dans la presse locale ou régionale. Et donc, bon, mes 469 accidents graves ou mortels en 6 mois, en réalité, il y en a eu bien davantage. Alors, vous l'avez dit, hein, le souci, c'est qu'il n'y a pas de chiffrage très précis aujourd'hui sur cette question, et on a plus de 5 millions de personnes dans la fonction publique qui échappent complètement au regard de ces chiffres. On a plusieurs millions d'indépendants, et encore, on pourrait rajouter à cela les travailleurs détachés, les travailleurs non déclarés. On se rend compte qu'on a entre 8 et 10 millions de personnes qui échappent aux statistiques liées à la question des accidents du travail. Et donc, on a une espèce d'énorme angle mort, et du coup, on utilise sans arrêt des chiffres, mais des chiffres qui finalement sont un peu bancals, puisqu'ils ne reflètent pas la réalité précise du monde du travail aujourd'hui. Alors moi, il y a quelque temps, j'avais évoqué l'idée d'un observatoire sur les accidents du travail. C'est une idée que j'avais lancée comme ça, je sais même pas si ce serait possible, etc. Mais bon.
Vous l'aviez lancé où cette idée sur les réseaux sociaux aussi, sur votre page ou ailleurs?
Ouais, je l'avais lancé sur ma page justement un jour où j'évoquais parce que souvent on me répète oui, mais vous êtes un rabat-joie, les accidents du travail sont en baisse et on me reprend les chiffres de la sécurité sociale et là j'avais pris quelqu'un au mot en lui disant mais de quels chiffres parle-t-on? Alors ces chiffres, ils sont là, ils existent et c'est une base qui est utile et intéressant d'utiliser, mais il y a un problème quand même sur ces données, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est toutes ces personnes qu'elles ne prennent pas en compte et
les non-salariés.
Oui, voilà, alors ouais, c'est de la fonction publique. Et puis, on voit aussi avec le développement, de l'auto-entrepreneuriat ces dernières années, tous ces micro-entrepreneurs, avec la question aussi de l'uberisation, on a une multiplication comme ça de ces personnes qui sont au travail. Et malheureusement, je prends le cas d'un livreur, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, le livreur qui a un accident. Lors d'une de ces courses, il ne va pas être considéré comme un accidenté du travail. Et moi,
leurs frais médicaux ne sont pas couverts.
Oui, il ne sera pas couvert. Et puis moi, dans mon travail de recensement, je prends en compte toutes ces personnes-là, même si entre guillemets officiellement, elles ne rentrent pas dans les statistiques. J'ai cette liberté, on va dire, de pouvoir prendre cet ensemble de personnes, que ce soit d'ailleurs aussi des travailleurs. Non déclaré ou sans papier, on a eu...
On va revenir sur votre décompte, Mathieu Lépine. Je voudrais entendre Georges Mugnot sur la question des auto-entrepreneurs et des livreurs à vélo. Dans le décompte de Mathieu Lépine, dans les 6 mois qui viennent de s'écouler, 7 livreurs à vélo, 7 coursiers à vélo sont décédés dans l'exercice de leur travail. Vous, Georges Mugnot, vous travaillez depuis un certain temps maintenant sur la désaffiliation de la société salariale qui vient fragiliser, mettre à l'épreuve le dispositif juridico-administratif de la prise en charge des accidents du travail. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui alors que les formes d'ubérisation du travail ne cessent de s'accentuer, de se multiplier autour de nous?
Alors justement, ces formes d'emploi, parce que ces formes d'emploi en fait, l'ubérisation c'est une forme d'emploi, pose justement la question et montre les limites en fait du système assurantiel, qui s'est fondé essentiellement justement sur les statuts des salariés, subordonnés à l'employeur, et avec ça, donc les salariés accèdent donc à un certain nombre des droits, dont donc la couverture accident du travail. Or, la question qui pose justement ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est que on a des individus qui, en théorie, sont libres, donc qui peuvent, quand ils souhaitent, grâce à leur application, donc faire une course, etc., mais qui ne bénéficient pas du tout, donc de toute la protection qui a été construite, donc avec l'histoire de la sécurité sociale depuis la fin du 19e siècle. Et ça pose donc une question qui est essentielle, notamment en termes des protections, bien évidemment des préventions, comme c'était souligné tout à l'heure, parce qu'ils échappent totalement à tous les systèmes des suivis médicaux, des préventions également. Donc là, c'est un défi pour le système de protection sociale, c'est un défi politique aussi pour repenser en fait justement les formes d'emploi, donc en l'occurrence. Et il faut savoir que tout récemment, donc un collègue, donc Monsieur Cassilli, a estimé à peu près 200 000 personnes, donc ce qu'il appelle lui les travailleurs du CLIC, donc en France. Donc sur les 200 000, il n'y en a pas tous qui vivent que de ça. Il estime à peu près, si mes souvenirs sont bons, à 7 000, 15 000 personnes à peu près qui vivent que de ça. Donc qui vivent vraiment grâce Uber et compagnie. Donc c'est un phénomène qui en France est en augmentation, même si la part des indépendants en France reste relativement stable. Mais par contre, les types des métiers à l'intérieur de ces indépendants ont considérablement évolué.
Cette ubérisation dont on parle, elle a mis en évidence une responsabilisation du salarié par rapport à la prévention. C'est-à-dire, ce qu'on n'entend pas dans l'extrait que vous avez entendu en début d'émission, ce sont ces salariés qui disent il y a eu un mort et on continue à nous dire que ce salarié n'avait rien à faire là et on continue à nous distribuer des fascicules, des petits pictogrammes qui nous disent qu'il ne faut pas regarder son téléphone portable quand on marche sur un terrain à risque, qu'il faut faire attention. En gros, Rachel Saada, est-ce que On observe aujourd'hui une déresponsabilisation de l'entreprise, de l'employeur par rapport à l'accident du travail au détriment du salarié qui, lui, et l'ubérisation en est un témoin aujourd'hui, qui lui doit la prendre en charge.
Oui, alors, ça n'est pas nouveau non plus, c'est pas quelque chose qui déboule aujourd'hui avec l'ubérisation. Dans les années 50, on avait des affiches dans lesquelles on voyait un homme alité à l'hôpital avec une épouse éplorée et sur laquelle il était inscrit « Votre imprudence cause la douleur des vôtres ». Et c'était publié par une association patronale de lutte contre les accidents du travail. Donc, il y a de toute façon cette idée selon laquelle c'est le travailleur qui commet des imprudences et qui est responsable. Et s'ajoute aujourd'hui une autre idée qui est portée depuis quelques années, d'une part par le MEDEF, d'autre part par les politiques, suivant laquelle, eh bien, les parties sont égales. C'est-à-dire que le patron et le salarié sont des fictions, finalement, juridiques, qui signent ensemble un contrat, qui discutent, qui négocient et qui prennent des risques. Et donc, évidemment, cette idée-là ne peut pas aider à la prévention, puisque le premier réflexe, et c'est encore le cas, c'est de voir si le salarié n'a pas commis une faute qui rendrait l'accident imputable. Alors qu'en réalité, il ne faut pas parler de faute, il faut parler de risque. C'est du risque professionnel. On peut effectivement être victime d'un accident en ayant commis une faute, mais cette faute n'est pas impardonnable, elle est liée à l'activité, et on peut avoir eu un accident sans avoir jamais commis la moindre faute, parce que le dispositif de sécurité n'est pas bon, et puis parce que c'est la faute à pas de chance, quelquefois.
Mathieu Lépine, sur cette question de la responsabilisation des salariés qui doivent, à qui on dit qu'ils doivent prendre en charge leur propre sécurité au travail, vous, dans les cas que vous recensez, il y a donc beaucoup d'ouvriers du BTP, beaucoup de professions précaires, peu considérées aussi d'un point de vue social. Est-ce que ça, c'est un élément qui accentue cette tendance au discours responsabilisant et voire moralisant du salarié, à votre avis?
Alors moi, c'est vrai que dans mon recensement, je retrouve notamment énormément de sous-traitants. Et pour ce qui est de la question de la déresponsabilisation, bah c'est un angle qui est quand même très très important à analyser. La question des sous-traitants, la question des intérimaires, et on le voit d'ailleurs avec l'été. Mon recensement évolue complètement puisqu'il y a de nouvelles activités liées à l'été, par exemple avec les travailleurs saisonniers. Et j'ai déjà recensé plusieurs travailleurs saisonniers dans mes statistiques récentes. Moi, je voulais juste faire une petite aparté. On parlait tout à l'heure des livreurs, des livreurs Uber Eats, etc. Je voulais avoir une pensée notamment pour Mourad, qui est un livreur des livreurs de 24 ans, qui est aujourd'hui dans le coma suite à un accident qu'il a eu lors d'une course à vélo il y a quelques jours. Et puisqu'il, bon, il est en ce moment beaucoup question de Deliveroo, je tenais notamment à rappeler cela. Et donc, sur la question de la déresponsabilisation, en effet, moi, je le note de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, avec l'explosion. Enfin, je ne sais pas si c'est une explosion, parce que j'ai pas le recul que vos invités, par exemple, peuvent avoir sur la question. Moi, je m'y intéresse depuis quelques années, on va dire, mais le nombre de sous-traitants, moi, que je vois dans mon recensement, notamment dans les décès, et là, et ça va être beaucoup dans le BTP, comme vous le rappeliez, me paraît, moi, assez fou. Et voilà, alors, ce que je pouvais dire sur ça, ouais.
Alors, Rachel Saadav, concernant les livreurs à vélo ou les auto-entrepreneurs, où en fait l'employeur n'est pas vraiment, comment dire, matérialisé, pas toujours en tout cas, comment est-ce que, par exemple, dans le cas d'un livreur à vélo accidenté, on peut établir la responsabilité de son entreprise aujourd'hui?
Alors il y a deux choses. La première, c'est qu'évidemment, si on arrive à faire la démonstration que c'est en réalité un contrat de travail, et il y a eu plusieurs arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation, par différentes cours d'appel, pour requalifier des contrats de plateforme en contrat de travail. Donc ça, c'est une première possibilité. C'est
très
long.
Et donc il faut passer par le biais du salariat pour se faire reconnaître.
Il faut passer par le biais du salariat. Pourquoi ? Parce que seul le contrat de travail assujettit les salariés à la législation sur les accidents du travail.
Donc mais il faut d'abord. Ça n'est pas très en phase avec l'évolution du monde du travail.
Ça n'est pas du tout en phase. Et la deuxième chose, c'est que est plus ou moins en préparation au ministère du Travail une espèce de charte à laquelle adhéreraient les plateformes et qui vise à leur faire prendre conscience des nécessités de prévention, etc. Mais qui en même temps, parce que ça n'est pas bien fait, va leur permettre de s'exonérer complètement de la possibilité de requalification en contrat de travail. Et que dès lors que donc la plateforme aura adhéré, signé la charte proposée par le ministre du Travail, eh bien il y aura une sorte de présomption irréfragable, attention c'est pas un gros mot, ça veut dire présomption qu'on ne peut pas combattre de non-contrat de travail. Donc ce sont des choses très techniques. Ce sont des situations très complexes, mais il faut dire aussi que on n'est pas aidé par le fait que l'état des juridictions du travail n'est pas bon.
N'est pas assez contraignant, en fait, c'est ça?
Alors, ce n'est pas que ce n'est pas assez contraignant, c'est que l'accès aux juges est de plus en plus difficile et les moyens de fonctionnement donnés aux juridictions du travail et aux juridictions sociales sont insuffisants. Donc, même quand on veut se battre, on y passe trop de temps. Et c'est trop complexe.
Et pourtant, Rachel Saada, on peut rappeler un arrêt de la Cour d'appel de Paris de décembre 2017. Vous avez défendu un salarié, la famille via sa famille qui vous a saisi, un salarié géologue qui s'est suicidé à 27 ans dans l'exercice chez lui. Mais vous avez réussi donc à requalifier ce suicide en accident du travail. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que c'est un cas très rare, c'est-à-dire que les sanctions au pénal n'aboutissent presque jamais concernant les accidents du travail.
Alors, c'est sûr que les poursuites contre la délinquance patronale sont moins nombreuses que les poursuites contre les délinquants tout court. Il y a pas ou peu de politique pénale en matière de droit du travail. Les seuls délits qui soient vraiment poursuivis sont les délits de travail clandestin ou de travail illégal. Il y a bien sûr des poursuites sur l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, mais pas suffisamment et qui reposent trop souvent sur la bonne volonté et sur le travail acharné de certains procureurs de la République. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de volonté de poursuivre ces infractions. Donc ça, c'est le contexte général. Après, sur l'exemple que vous donnez, en effet, c'était un dossier assez terrible où un jeune ingénieur, plein de promesses, a mis fin à ses jours au bout de 2 ans de travail dans une entreprise où il a été lessivé, exploité, harcelé, et il a mis fin à ses jours. Alors c'est un peu particulier parce qu'on a pu faire la preuve qu'il avait été victime d'un harcèlement moral et que grâce à la combativité, la détermination de ses parents et de ses sœurs, nous avons pu mobiliser le procureur de la République, les services de l'inspection du travail, le tribunal correctionnel, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le conseil des prud'hommes, pour faire reconnaître les manquements de l'employeur, le dépassement des durées maximum de travail, le non-respect du droit au repos, etc. Toutes choses, tout ce qu'on appelait autrefois le surmenage, qui ont pu le conduire à une dépression profonde et à ce geste fatal. Et dans ce dossier, c'est le seul à peu près, il a d'ailleurs été cité par le procureur de la République lors du procès France Télécom, c'est le seul où à la fois on reconnaît le harcèlement moral et l'homicide involontaire de l'employeur. Mais ça, c'est pas ce qui fait la masse des décès Ce qui fait la masse des décès, c'est les accidents physiques. Et c'est les porte-chars défectueux, les capots des machines qui sont enlevés, les économies de bout de chandelle et la précarité.
Georges Munoz, vous le rappelez dans vos travaux, c'est pas nouveau, les ouvriers depuis le début de l'ère industrielle ont pris conscience de leur fragilité au travail et ont entrepris des actions contre leurs patrons. Vous parliez du code Napoléon où déjà il y a des actions donc entreprises par des travailleurs contre leurs employeurs et donc aujourd'hui il y a encore des possibilités d'action même si on voit qu'elles aboutissent rarement à des condamnations. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer des cas, et j'imagine qu'il en existe tout de même, des cas où les entreprises prennent leur part de responsabilité et donc accompagnent les salariés accidentés vers un rétablissement, vers une reconversion, même si moins de 10% des entreprises, selon un autre sondage, retrouvent un nouveau poste à leurs salariés après un accident du travail. Comment est-ce qu'on peut faciliter, j'imagine que si une minorité d'entreprises accompagne leurs salariés après un accident du travail, c'est compliqué à mettre en place. Comment est-ce qu'on peut imaginer un dispositif plus simple pour les entreprises aujourd'hui, pour les employeurs ?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Premièrement, c'est les types d'entreprises qui peuvent donc accompagner. Alors, ce que l'on constate dans les cas français, quand on compare en fait la France à d'autres pays, notamment européens, etc., par rapport au mode d'organisation du travail, c'est que la France se caractérise par avoir des formes d'organisation du travail qui sont assez rigides, assez figées. Et ces formes-là ne favorisent pas, justement, par exemple, une réflexion sur un vrai mode de réorganisation pour permettre à quelqu'un qui a eu un accident du travail, donc de retrouver un poste, par exemple. C'est des organisations parfois aussi très plates. Très plates, ça veut dire que vous avez peu des niveaux d'hiérarchie, donc vous avez tout le monde au même niveau avec les mêmes types de travail. Prenez, par exemple, un exemple type, les plateformes téléphoniques. Donc ce qui fait que quand il s'agit de réfléchir justement à quelqu'un qui se trouve en arrêt suite à un accident du travail, qu'on est en train de penser un peu comment on va faire pour son retour, se pose la question de savoir quel type de poste il va occuper, comment. Et ça pose la question de la réorganisation, c'est-à-dire revoir le travail, reparler du travail. Et ça, ce n'est pas simple en France. C'est quelque chose qui est assez constante, en fait, qui est plusieurs d'autres travaux aussi ont pu le montrer, c'est qu'il y a comme un paradoxe, on va dire. En France, on ne peut pas parler du travail, en fait. Hein? On va parler de l'emploi, par exemple, mais du travail, en fait, ce que les gens font concrètement, comment ils les font, les sens qu'ils les donnent, ça, on discute peu.
Est-ce que c'est pour ça qu'il est si difficile de mettre sur la table la question des accidents du travail ?
Alors, oui, parce que par définition, un accident du travail interroge l'organisation. On peut pas faire l'impasse. Disons, quand un accident se produit, tout à l'heure l'évoquer, on a tendance à traiter ça, même les personnes. Tout à l'heure, dans l'extrait que vous avez passé tout au début de l'émission, quelqu'un s'est posé la question, comment est-ce possible, il était négligent, même soi-même, on s'est dit, je n'ai pas fait attention, etc. Donc on a affaire à ce que, moi j'ai appelé, mais d'autres collègues aussi, une sorte de logique accusatoire, en fait, morale. Donc là-dessus. Alors que, justement, il faut sortir de cet principe-là. Les termes accident nous induit en erreur parce que, en fait, quand on commence à analyser, on se rend compte que les choses ne sont pas produites si, entre guillemets, accidentellement. Hein. Donc, non, au contraire. Donc, ça interroge la raison du travail. C'est la raison pour laquelle c'est difficile, en fait.
C'est aussi ce que vous pointez, Mathieu Lépine. La majorité des articles que vous recensez, qui vous permettent de recenser les morts et les blessés graves des accidents du travail en France, vous les trouvez dans la rubrique faits divers. Et vous vous dites, mais en fait, comment on peut dire qu'il s'agit d'un fait divers quand autant de cas apparaissent dans les colonnes de nos journaux venant de la même cause et intervenant dans le même secteur?
Oui, ce qui est doublement intéressant, c'est cette notion de fait divers et aussi l'absence du terme accident du travail, justement. C'est que on va avoir parfois un article avec comme titre un homme a chuté d'un échafaudage. Ensuite, quelques mots. Parfois, on va avoir l'âge de la personne. Et puis, on va apprendre que la personne est en urgence absolue. Puis derrière, on n'aura plus rien. C'est-à-dire qu'on a, je sais même pas si on peut appeler ça des articles, c'est toujours très très court, toujours donc le bandeau fait divers. Et ce que je disais en effet, c'est que lorsqu'on a une multiplication de ces fameux faits divers, on est davantage face à un fait social. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que dans tous ces articles auxquels j'ai accès via Internet, bah, on a malheureusement pas de suivi, on a une invisibilisation totale de la victime. On va rarement en savoir davantage sur qui est cette personne, comme s'il y avait une forme de désintérêt et même de fatalisme par rapport à ce qui arrive. Et donc moi, à travers mon compte Twitter, c'est justement ce que j'essaye de faire. Alors j'y arrive pas toujours parce que bah, j'ai pas forcément toujours le temps, parce que je ne vais pas pouvoir avoir accès aux informations qui m'intéressent, mais lorsque je peux pouvoir raconter qui était cette personne, donner son âge, donner son nom, parler de son travail, si je peux aussi trouver la photo, parce que je me rends compte que finalement c'est pas tant le désintérêt des gens que leur méconnaissance sur ce sujet. Et lorsque hop, il y a une entrée à travers une photo qu'on voit, ah bah oui, regardez ce jeune livreur Uber Eats, Franck Page, 18 ans, il travaille pour payer ses études et il meurt à vélo pour la plateforme Uber Eats, tout de suite là les gens hop, ça les ils accrochent au sujet. Et derrière, l'idée, bah, c'est de leur essayer de leur faire prendre conscience de la masse en réalité de tous ces accidents. Parce que moi, aujourd'hui, j'en suis dans mon recensement à plus de 620 accidents graves ou mortels. Mais comme je le disais en introduction, la réalité, elle est bien au-delà de tout cela. Et alors après, j'essaye de faire ça, bien évidemment, à mon humble échelle, parce que j'ai pas forcément
tous les outils. Tous les outils,
voilà, j'ai pas forcément toutes les connaissances non plus. Comme je disais tout à l'heure, moi je...
Mais en tout cas, Mathieu Lépine, excusez-moi, je vous interromps à nouveau parce que nous approchons de la fin de notre plateau, mais ce que vous essayez de pointer, c'est vraiment la question de la reconnaissance, de l'accident et à travers la personnalisation des victimes de ces accidents. Georges Muñoz, vers quoi s'achemine-t-on aujourd'hui? Un rapport parlementaire de la députée La République En Marche, Charlotte Lecocq, a été remis au Premier ministre il y a quelques temps, un rapport qui prévoit de supprimer le DUER, le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui, selon ce rapport, est vécu par l'employeur comme une obligation réglementaire sans utilité pratique. Et pourtant, c'est un document qui permet d'établir la responsabilité des employeurs en cas d'accident du travail. Alors, vers quoi s'achemine-t-on aujourd'hui en termes de reconnaissance, justement?
Alors, au passage, donc, le document unique est issu aussi d'une normative européenne. Hein. Donc, c'est quand même assez surprenant que les rapports évoquent ça et qu'oublient d'évoquer donc cette normative européenne. Oui, les rapports, les coques, effectivement, bon, ils soulignent un aspect qu'on peut partager, c'est-à-dire les constats dès qu'on a affaire à un système de prévention qui est assez difficile à comprendre et à lire, parce qu'il est issu de l'histoire, justement, de la construction de la protection sociale. Le régime général va avoir ses services de prévention, les mutuelles sociales agricoles vont avoir ses services de prévention, on évoquait tout à l'heure les indépendants vont avoir rien du tout, et ainsi de suite. Donc, attirer l'attention sur ça, on est d'accord. En revanche, il a une vision, de mon point de vue, qui est un peu angélique, concernant justement les modes d'action donc sur le terrain. Et plus paradoxalement, ce qui m'a beaucoup étonné à la lecture de ces rapports, c'est qu'il ne dit pas un mot sur qu'est-ce que c'est une action de prévention. Il évoque beaucoup les questions des restructurations, des réorganisations, des mutualisations des services, services de santé au travail, services donc CARSAT, risques professionnels, etc. Mais tout ça en retirant, par exemple, l'aspect contrôle des CARSAT ou encore des injonctions.
Les CARSAT, vous pouvez expliquer?
Alors les CARSAT, c'est les caisses d'assurance maladie régionales, donc services des préventions risques professionnels qui sont à l'échelle de chaque région et ils s'occupent. La plupart des personnes les connaissent pour la côté retraite, mais il a un petit service qui est le service donc prévention des risques professionnels avec des ingénieurs et contrôleurs de sécurité, ergonomes et autres professionnels qui interviennent donc au niveau régional.
Donc pas de mesures concrètes égales, on pourrait dire pas d'obligation à faire, Rachel Saada.
Oui, alors c'est l'idée suivant laquelle lorsqu'on contraint les employeurs, ben ça leur plaît pas et ça marche pas, donc il faut enlever la contrainte parce que on s'adresse à des gens intelligents qui aiment pas être punis et donc il faudrait supprimer, diminuer les contraintes, libérer le travail. C'est ça l'idée, c'est toujours ça qui est derrière. Et c'est proprement hallucinant, parce que ça va produire, évidemment, mais suivant la novlangue habituelle hein, du libéralisme, on annonce un but qu'on poursuit, on le pare de toutes les vertus, on prépare un projet, mais en réalité, le but ultime de ce projet, c'est de faire le contraire de ce qui est annoncé. Donc, c'est très clair, quand on veut supprimer le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est un peu comme si on disait qu'on voulait supprimer la prévention.
Et juste un dernier mot, Georges Muñoz, avant de vraiment conclure cette discussion qui aura passé trop vite, quelles mesures de prévention simples on pourrait mettre en place dans les entreprises? Vous disiez que on ne parle pas dans les rapports parlementaires de prévention.
Dans les rapports en question, non, on ne parle pas des préventions. On parle des réorganisations des services, mais pas des préventions. Et donc ça pose la question de qu'est-ce que c'est une action de prévention. Une action de prévention, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle puisse mobiliser du monde, il faut qu'ils connaissent l'activité de travail. Autrement dit, donc qu'est-ce qu'ils font les gens concrètement quand ils vont travailler, quand ils vont se coordonner entre eux, tout ce que cela implique en termes d'engagement subjectif, affectif pour les individus également. Et ça suppose de prendre son temps. Donc on pourra justement ralentir, donc démettre un débat.
Une vision plus sociale du monde du travail.
Et l'activité de travail, il y a des dimensions techniques aussi, et morales, et affectives. Mais en tout cas, que ça nécessite, quand je dis d'émettre un débat, c'est vraiment donc que on dépasse un peu cette dichotomie qu'on a tout de suite, cette méfiance réciproque. Et ça, c'est extrêmement difficile. Mais quand vous allez dans les services, en l'occurrence, j'ai cité les CARSAT, mais on peut citer les MSA, et quand vous observez le travail justement de ces préventeurs, qui prennent des années, des mois pour arriver à un résultat dans un secteur X avec des résultats très concrets, vous voyez que ça demande du temps.
Eh bien, merci à vous trois d'avoir été avec nous pour parler de cette épineuse question. Mathieu Lépine au téléphone, Rachel Saada et Georges Muñoz avec nous en plateau. Et tout de suite, la deuxième partie du magazine du week-end.
Hear the people singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see?
Then join in the fight that will give you the right to be free.
Do you hear the people singing the song of angry men?
On ne vous torture pas les oreilles inutilement sur France Culture. C'est un extrait de la comédie musicale Les Misérables, enregistrée à Broadway. Do you hear the people sing? Entendez-vous le peuple chanter? Entendez-vous la chanson de la colère, la musique du peuple? Nous ne serons plus vos esclaves. La vie commence pour nous demain. Un chant que des milliers de manifestants ont repris à leur compte lors d'un sitting à l'aéroport international de Hong Kong le 13 août dernier. Vidéo tweetée par le militant hongkongais Joshua Wong, et c'est précisément l'objet de notre second plateau. Quel destin pour Hong Kong alors que ce week-end ont lieu de grandes manifestations, dont une très importante demain contre les violences policières. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Pierre Cabestan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue et chef du département des études internationales à l'Université Baptiste de Hong Kong. Et avec vous depuis Hong Kong, justement, où il est 19h18, Nicolas Béclin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur régional Asie de l'Est et du Sud-Est au sein de l'ONG Amnesty International. Nicolas Béclin, vous qui êtes à Hong Kong, qu'est-ce que vous sentez de l'atmosphère actuelle à cet instant à Hong Kong, à la veille de cette grande manifestation où plus d'un million de personnes sont attendues demain contre les violences policières et compte tenu de la présence de troupes militaires à Pékin aux portes de Hong Kong?
Je crois que c'est un sentiment
que l'histoire est en train de se faire à Hong Kong, mais que l'issue de la crise n'est absolument pas claire. Et il y a un mélange d'émotions qui vient d'un mouvement social qui dure depuis maintenant plus de 10 semaines, avec des manifestations très très importantes à travers le territoire depuis maintenant plus de 2 mois, et aussi un sens, je crois, d'épuisement émotionnel d'un certain côté, parce que le peuple de Hong Kong se bat contre le gouvernement, se bat contre un système politique qui vise à éroder et retirer à Hong Kong son statut spécial autonome au sein de la Chine, mais sans réussir pour l'instant.
Les manifestants savent qu'ils encourent 10 ans de prison pour être allés manifester pour des motifs politiques. Ils documentent les exactions de la police. Ils incitent d'autres Hongkongais à retirer un maximum d'argent des banques. Est-ce que cette détermination dans la mobilisation, Jean-Pierre Cabestan, est inédite ?
Elle n'est pas complètement inédite, mais elle a pris une ampleur sans précédent. Je dis qu'elle n'est pas complètement inédite parce que nous avons eu... il y a 5 ans maintenant, le mouvement des parapluies, hein, qui était déjà un mouvement en faveur d'une démocratisation de Hong Kong. Là, le mouvement actuel, comme c'est connu maintenant, a commencé par un combat contre une loi facilitant les extraditions vers la Chine continentale, qui a été vraiment le feu qui a mis
l'événement
qui a mis le feu aux poudres, et qui finalement est le résultat de plusieurs années de frustration politique après l'échec du mouvement des parapluies, notamment face à l'intransigeance de Pékin par rapport à toute réforme politique des institutions du territoire, et puis surtout une érosion, comme le disait Nicolas Becklin, une érosion des libertés, une emprise de plus en plus nette de Pékin à travers son bureau de liaison dans le territoire, et des menaces aussi de plus en plus fréquentes à tout activisme, contre tout activisme politique. Donc c'est pas nouveau, mais cette ampleur est nouvelle, et surtout ce qui est nouveau, c'est que ce mouvement qui était au départ un mouvement contre donc cette loi d'extradition s'est transformé à partir du début juillet, un mouvement beaucoup plus large qui demande justement la remise en chantier de ces réformes politiques qui avaient été laissées en l'état en 2014, et parce que Pékin ne veut pas céder le contrôle de deux institutions importantes. D'abord le poste de chef de l'exécutif, qui est occupé par Carrie Lam, qui est beaucoup plus nommé par Pékin que élu par les électeurs de Hong Kong, et le Parlement, qui est seulement à moitié démocratique, puisque vous avez un nombre de sièges qui sont des sièges professionnels, des collèges professionnels au sein de ce Parlement. Donc ce mouvement est devenu vraiment très politique.
Et plus global.
Et plus global. Maintenant, est-ce que je pense que les gens sont aussi réalistes, et on pourra en venir tout à l'heure, mais à Hong Kong, ils savent très bien qu'une démocratisation complète du système politique de Hong Kong paraît difficile tant que vous avez un système de parti unique en Chine continentale. En revanche, certaines des revendications, comme par exemple la mise en place d'une commission indépendante d'enquête sur les violences policières, me paraît une revendication à la fois très forte, qui fait beaucoup, qui a reçu un soutien massif à Hong Kong, et qui pourrait être satisfaite si Pékin faisait preuve de plus de souplesse.
Parlons justement des violences policières avec vous, Nicolas Becklin. Amnesty International a pointé les exactions de la police, l'utilisation de la force, des canons à eau, une véritable mise en danger des manifestants qui ne sont pas à l'abri de causer des morts. Demain, il y a une manifestation qui attend plus d'1 million de personnes pour dénoncer ces violences policières. Et les forces de police hongkongaises sont sur le papier suffisantes pour régler la situation. Or, apparemment, des policiers chinois sont intervenus sur le terrain. La situation se durcit sur le terrain, notablement.
Oui, je pense que c'est exact. Il n'y a pas de policiers chinois qui opèrent de façon, qui ont été intégrés dans les forces de police de Hong Kong. Il y a des rumeurs que ça a été le cas, mais c'est un pas qui serait tellement significatif, qui signifierait la fin de l'autonomie de Hong Kong, qui est difficile de le voir en ce moment. Ce qui est sûr, c'est que Pékin suit et dirige certains des aspects de la stratégie du gouvernement, qui est une stratégie qui ne marche pas, mais ça s'arrête là. Amnesty International fait un travail de monitoring, de vérification, d'analyse des sources, d'authentification des éléments de preuve. Effectivement, très tôt, dans les premiers jours des manifestations en juin, nous avons identifié un usage de la force, un usage des armes incapacitantes qui étaient en brèche et en violation non seulement des codes de procédure de la police de Hong Kong, mais aussi des standards internationaux qui régissent l'exercice de la force et de la police dans ce droit fondamental qui est le droit à manifester pacifiquement. C'est un travail que nous continuons de faire et qui a été d'ailleurs notre caractérisation de cet emploi abusif de la force a été repris par Michelle Bachelet, la secrétaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Le problème, c'est que devant l'intransigeance du gouvernement, il y a un nombre de manifestants qui utilisent des moyens violents, parfois contre la police, souvent contre des cibles symboliques, des stations de police, la législature de Hong Kong, etc. Et c'est quelque chose sur lequel il semble que le gouvernement compte pour essayer de retourner l'opinion publique des classes moyennes à Hong Kong. Et pour ajouter à ce que disait très justement Jean-Pierre Cabestan, je pense qu'une des grosses différences qu'on voit dans ce mouvement aujourd'hui, c'est que un soutien de la classe moyenne, un refus de la condamnation par les élites économiques qui tiennent l'économie de Hong Kong en cartel, les fameux tycoons, et une situation qui a vraiment complètement changé, sachant que Hong Kong est une ville où extrêmement policiers, où on ne voit pas de violence normalement. Donc là, on a une situation vraiment qui est explosive, où on pourrait avoir en fait rapidement plus de blessés, même des morts, ce qui créerait une situation encore plus tendue. Tout cela, malheureusement, dans un contexte où on voit que la Chine se durcit politiquement et de façon à protéger, disons, la population chinoise des éléments caractérisés de subversifs à Hong Kong, met à jour une propagande très forte pour diaboliser ce mouvement. Ils ont 5 demandes depuis le départ qui sont tout à fait claires et bien articulées, qui sont le retrait de projet de loi sur l'extradition, une commission indépendante sur les exactions policières, le retrait de la caractérisation d'émeutiers par la police des manifestations, un arrêt des arrestations. Il y a quand même plus de 700 arrestations depuis le mois de juin de manifestants, souvent dans des conditions assez violentes et douteuses. Il y a un mouvement qui est uni. Simplement, le gouvernement refuse d'engager de l'entendre. Le dialogue qui pourrait mener à une solution.
Justement, avec vous, Jean-Pierre Cabestan, j'aimerais qu'on pose la question, quelle est la posture aujourd'hui de Xi Jinping par rapport à ce qu'il se passe à Hong Kong? Tout à l'heure, quand je parlais de forces policières chinoises qui se seraient infiltrées au sein de la police hongkongaise, vous acquiesciez, mais ce sont des choses que vous avez vous aussi entendues de la part de vos sources. Est-ce que pour vous c'est avéré?
Officiellement, il n'y a pas de policiers chinois à Hong Kong, il n'y a que des policiers hongkongais. Et le gouvernement a confirmé ou mis au point, rendu public une mise au point indiquant que tous les policiers hongkongais étaient résidents permanents à Hong Kong. Alors il y a deux choses qu'on peut ajouter à cela. C'est-à-dire que depuis la rétrocession en 97, la police de Hong Kong est de plus en plus souvent formée en Chine continentale. Donc les liens entre la police continentale, la sécurité publique en Chine et la police de Hong Kong sont de plus en plus étroits. La deuxième chose, c'est que d'après certaines sources confidentielles, il y aurait certains éléments de du Kwantung, de la police du Kwantung qui seraient intégrés dans la police de Hong Kong, qui parlait également cantonais et qui serait peut-être au nombre de 2000 d'après certaines sources, mais ça n'a pas été, ça a été, premièrement, ça a été démenti par les autorités de Hong Kong et ça n'a pas été confirmé de manière officielle. Donc voilà ce qu'on peut dire maintenant, c'est que ce qui est plus important peut-être, c'est que étant informé en Chine, le modus operandi de cette police est devenu beaucoup plus violent, beaucoup plus autoritaire. Et la deuxième chose, c'est que en plus...
On pousse à la radicalisation pour mieux neutraliser.
Alors ça, c'est une stratégie évidente qu'a indiqué déjà Nicolas Becklin. La violence... alors au départ, la violence, elle a été provoquée par la police et elle a payé. Puisque c'est la violence qui, ce sont les violences policières du 12 juin qui ont contraint, en fait, Carrie Lam à suspendre le projet de loi sur l'extradition, à la veille de la deuxième manifestation le 19 juin qui a rassemblé 2 millions de personnes. Donc, il y a quand même un sentiment parmi certains manifestants et acteurs du mouvement, c'est que seule la violence paye. Mais évidemment, Pékin essaie de récupérer cette situation à son avantage en poussant le mouvement à la violence et donc à l'erreur, et parce que la radicalisation sert les intérêts de Pékin et est de nature à enfoncer un coin, si vous voulez, entre les activistes et puis le reste de la société, qui pour l'instant, en dépit notamment de l'occupation du Parlement le 1er juillet dernier, et bien a continué d'apporter son soutien au mouvement. Donc, mais on voit bien la stratégie de Pékin, elle est assez transparente, c'est-à-dire que d'abord
une surdité, après
d'abord refus de tout dialogue, après pousser le mouvement à une forme d'extrémisme, de radicalisation qui pourrait évidemment leur aliéner le soutien de la reste de la population et puis donc l'isoler et le délégitimer aux yeux de la société de Hong Kong.
Alors, l'université Lunjiang a cette formule intéressante en parlant de Hong Kong. Pour Pékin, dit-il, le moment est venu de tuer la poule aux œufs d'or afin d'éviter qu'elle ne devienne un coq criant de liberté. Est-ce que pour vous, Nicolas Becklin, sur place à Hong Kong, ça qualifie assez bien la situation? C'est que Hong Kong a été un peu trop bruyante dans ses revendications de démocratisation?
Bon, je pense que ça reflète un petit peu la ligne, ça reflète même complètement la ligne officielle de la propagande du gouvernement, qui a été de peindre les Hongkongais et les manifestants hongkongais comme des privilégiés dont la prospérité est due à la générosité de la Chine et qui sont infiltrés d'idéaux occidentaux, qui sont d'ailleurs des marionnettes de l'Occident et de plus vivant dans un territoire qui ne contribue pas au même niveau à l'économie et à l'activité économique de la Chine que c'était le cas en 1997 à l'heure de la rétrocession. Mais je crois qu'il faut quand même regarder le fait que Hong Kong joue un rôle absolument indispensable pour l'économie chinoise et encore plus aujourd'hui à cause de la guerre commerciale avec les États-Unis. Il n'y a pas de marché boursier en Chine, il n'y a pas de transfert de marché des capitaux libres, ce n'est pas une devise qui est libre, et donc la Chine a besoin absolument de Hong Kong, du marché boursier de Hong Kong, de ses institutions, de l'état de droit comme poumon pour faire fonctionner son économie, une économie qui est en ce moment sous haute pression. Et puis un second élément qu'il faut non plus pas oublier, c'est que d'un grand nombre des familles dirigeantes de la Chine populaire, de l'aristocratie rouge du parti, ont capitaux, familles, enfants associés à Hong Kong. Ils ont des propriétés à Hong Kong, ils ont des intérêts financiers importants. C'est aussi l'endroit où on recycle l'argent qui vient de ce capitalisme d'État de la Chine. Donc de nombreux cadres, dirigeants, hommes d'affaires recyclent très facilement l'argent à Hong Kong. Donc il y a un intérêt là financier et économique qui fait que il est il est très peu probable que Pékin déclencherait une opération ou prendrait des mesures qui, effectivement, mettraient fin au statut de l'autonomie de Hong Kong.
Je rappelle que les troupes militaires chinoises stationnent justement vers à la frontière de Shenzhen, donc aux portes de Hong Kong. C'est la situation actuelle en ce moment et donc une intervention militaire est redoutée. Donc je rappelle également que qu'il y a 28 ans, donc la Hong Kong a signé un accord, donc enfin a été rétrocédé à la Chine dans le cadre d'un accord où donc Hong Kong bénéficie de prérogatives dans le cadre de cet accord du 1er juillet 1997. État de droit, frontières, monnaie, justice, c'est son propre à Hong Kong. Et en 2047, donc Hong Kong perdrait ces prérogatives là selon la teneur de cet accord. Est-ce que dans ce cadre, connaissant ses tenants et ses aboutissants, Jean-Pierre Cabestan, Hong Kong aujourd'hui a tout intérêt à revendiquer son indépendance? On va un peu loin.
Non, vous avez raison de pointer du doigt le fait qu'il y a quelque chose de nouveau à Hong Kong aujourd'hui. Vous avez un mouvement en faveur de l'indépendance de Hong Kong qui, avant le mouvement des parapluies, était impensable. Ce que je dois dire, c'est que ce mouvement en faveur de l'indépendance de Hong Kong est extrêmement minoritaire. Parmi les députés localistes qui ont été élus en 2016 aux élections législatives, qui ont recueilli 18% des voix, à peu près un tiers étaient vraiment indépendantistes, donc 6% des voix. La plupart des Hongkongais savent très bien que Hong Kong fait partie de la Chine et qu'il n'y a pas à la fois de volonté d'indépendance ni d'espoir d'indépendance. Ce que veulent les Hongkongais, c'est surtout une autonomie, que Pékin respecte ses promesses. Premièrement, un haut degré d'autonomie, qui est vraiment une formule officielle, même à Pékin, qui est inscrite dans la loi fondamentale de Hong Kong. Et deuxièmement, tenir la promesse de démocratiser les institutions de Hong Kong. Alors Pékin a essayé de tenir sa promesse à sa manière en disant « oui, on va vous accorder le suffrage universel, mais c'est nous qui choisissons les candidats ». Et c'est ce qui a provoqué le mouvement des parapluies il y a 5 ans. Donc voilà où on est maintenant. Est-ce que Pékin peut aller plus loin dans la démocratisation? Je pense pas. Je pense que Pékin veut conserver le contrôle de ce poste essentiel qui est le chef de l'exécutif. Et de toute façon, le chef de l'exécutif de Hong Kong et le gouvernement de Hong Kong sont par derrière, je dirais, épaulés et même contrôlés par ce bureau de liaison et puis les institutions que la Chine a mises en place à la fois à Hong Kong et à Pékin pour diriger Hong Kong. Donc Hong Kong est tenu en laisse et avec une laisse de plus en plus courte, je dirais.
Et quand Nicolas Becklin disait que la Chine a besoin de Hong Kong, est-ce que l'inverse est vrai ?
Hong Kong a besoin de la Chine. Ben, Hong Kong est extrêmement dépendant de la Chine. Donc c'est pour ça que la société de Hong Kong ne peut pas aller trop loin non plus dans le défi du régime chinois. D'une certaine manière, il faudra que de part et d'autre, ils trouvent une forme d'accord ou de compromis. Pour tant que la Chine reste dirigée par un parti unique, et bien que Hong Kong puisse tout de même à la fois respecter la souveraineté chinoise, et vous avez des éléments de la souveraineté chinoise déjà présents à Hong Kong, vous avez une garnison de l'armée populaire de libération, quoi, avec 5 000 ou 6 000 personnels, mais qui n'interviennent pas dans les affaires de Hong Kong, sauf à la demande du chef de l'exécutif. Et puis, la politique étrangère est contrôlée par la Chine, vous avez les consulats à Hong Kong, mais qui dépendent du ministère des Affaires étrangères à Pékin. Maintenant, la question c'est de savoir quelle est la capacité de la résistance de la société de Hong Kong. Et là, je suis pas trop pessimiste, dans le sens où Hong Kong est une société ouverte, avec tous les éléments d'une société ouverte, c'est une société civile dynamique, avec des ONG, des organisations politiques, des partis politiques, des organisations religieuses, tout ceci indépendante du pouvoir. Et donc, ça constitue autant de contre-pouvoirs, si vous voulez, de capacité de résistance de la société de Hong Kong face à cette emprise du Parti communiste chinois, qui est évidemment de plus en plus visible à Hong Kong.
Nicolas Becklin, quel scénario immédiat peut-on envisager là avec un chef de l'État chinois qui n'a pas vraiment intérêt à lancer les hostilités et avec Hong Kong qui n'a pas non plus intérêt à aller plus loin dans ses revendications, mais juste à tenir déjà ses positions, ce qui est déjà suffisamment compliqué?
Oui, je pense que j'utiliserai une image un peu simplificatrice, mais imaginons un de ces grands escalators du métro parisien. À l'étage supérieur, c'est l'état de droit. À l'étage inférieur, c'est le régime du parti unique. Et en fait, la population de Hong Kong est sur cet escalier roulant qui descend de l'état de droit au régime de parti unique avec une date qui est déjà fixée, qui est 2047. En 2047, c'est la fin d'un pays, de système. Et donc, nous avons tous joué, lorsque nous étions enfants, à essayer de rester sur place alors que l'escalator descend. C'est ce que la population de Hong Kong a essayé de faire, c'est-à-dire pendant que Pékin, et souvent le gouvernement de Hong Kong, essaye d'accélérer la marche vers 2047. Mais je vois que pour Pékin, c'est très clair. En 2047, Hong Kong tombe tout cuit dans leurs bras. Donc il n'y a pas un sentiment d'urgence ou de perte de contrôle du territoire qui amènerait Pékin à prendre une décision dramatique, à un nouveau Tiananmen ou une intervention armée. Il suffit qu'ils attendent 2047. Alors évidemment, il y a maintenant au sein de Hong Kong des passagers de cet escalator qui disent le problème, c'est pas l'escalator qui descend, le problème, c'est qu'il faut casser le moteur de cet escalator. Et ça, c'est quelque chose effectivement auquel Pékin ne réagirait pas bien. Et je crois que le risque, il est là. On voit très bien dans les 10-15 dernières années que Pékin, un régime parti unique, qui a tourné le dos à l'ouverture et à la progressive libéralisation de la société dans les dernières années, et surtout avec l'ascension au pouvoir de Xi Jinping, ne sait pas gérer ses marges et ses territoires périphériques. Plus d'un million de Ouïghours, une minorité ethnique détenue dans des camps de rééducation au Xinjiang. On se rappelle des émeutes au Tibet en 2008. On le voit avec Taïwan, un mouvement aussi qui s'était opposé il y a quelques années à un rapprochement avec la Chine. Le mouvement des parapluies et aujourd'hui ce mouvement à Hong Kong. Il est intéressant de voir que les populations qui sont les plus exposées au système politique chinois se rebellent. Ce sont souvent des jeunes générations. Ils utilisent les outils de l'âge de l'information, les outils électroniques, etc. Et ils refusent de rentrer dans un monde où on doit simplement accepter que l'autoritarisme, l'érosion des droits de l'homme, la fin de l'état de droit sont des choses qui sont inéluctables.
Et vous pointez la détermination, Nicolas Béclin, de la population, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, paradoxalement, un sentiment de résignation à constater que on ne peut pas, qu'il est difficilement concevable de revenir sur un tel accord qui, selon lequel, en 2047, de toute façon, Hong Kong ne pourra plus bénéficier de son statut administratif spécial. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de résignation qui accompagne ça?
Voilà, je pense comme Jean-Pierre Cabestan le disait très bien, c'est un sentiment qui est simplement une exacerbation de la frustration politique, mais qui n'a pas de soutien large au sein de la population, et il n'y a pas vraiment de risque de séparatisme ou d'indépendance de Hong Kong. Malheureusement, simplement parler de cette question et pour Hong Kong et pour les dirigeants à Pékin, quelque chose qui est extrêmement sensible. Je crois que c'est aussi la chose qui protège Hong Kong, c'est que si Pékin mettait fin à un pays de système pour Hong Kong, il n'y aurait plus de modèle pour réintégrer Taïwan. Et le grand objectif politique de Xi Jinping pour mettre en œuvre la grande régionalisation de la nation chinoise, comme il l'a annoncé dans son programme.
Jean-Pierre Cabestan, Nicolas Béclin pointe une question importante. Si jamais le pouvoir à Pékin cède sur la question de Hong Kong, ce sont toutes ces régions administratives spéciales comme Taïwan, comme Macao, qui sont aussi menacées. Donc la fin de la Chine telle qu'on la connaît aujourd'hui.
D'abord, Taïwan n'est pas une région administrative spéciale de la Chine. Et c'est une république indépendante et démocratique dont le destin seul lui appartient, sauf évidemment guerre, engagement militaire de la Chine contre Taïwan. Mais ce que je pense, c'est que, en fait, Ce degré d'autonomie est variable. Pékin veut continuer de contrôler la situation à Hong Kong. Je pense que même après 2047, il est probable que ce statut soit prolongé. Parce que je vois mal un secrétaire du parti prendre les rênes de Hong Kong et remplacer un chef de l'exécutif et balayer toutes les institutions de Hong Kong telles qu'elles existent aujourd'hui. Au contraire, la Chine a démontré, même si c'est pas encore totalement garanti, qu'elle peut contrôler Hong Kong tout en laissant Hong Kong une forme d'autonomie relative. Elle peut contrôler Hong Kong, on n'en a pas encore indiqué, mais à travers beaucoup d'agents d'influence et puis d'intérêts économiques importants, notamment les tycoons, notamment les entrepreneurs hongkongais qui ont beaucoup d'intérêts en Chine continentale et qui sont pieds et poings liés et qui déjà ont commencé, justement actuellement, alors que le mouvement se continue de se développer, à prendre le parti de Pékin et à militer en faveur d'un retour à l'ordre et à la stabilité. Donc Pékin a les moyens de mobiliser un certain nombre de forces économiques et sociales à Hong Kong, et même politiques, qui lui permettent de conserver une influence importante sur le territoire. Et on voit bien c'est justement ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est pour ça que après 2047, les choses pourraient se perpétuer, à mon sens.
Nicolas Béclin, est-ce que on a un regard, là où vous êtes, à Hong Kong, sur ce que pensent les gens à Pékin, sur ce qu'il se passe à Hong Kong?
Oui, mais il y a cet art secret cultivé depuis des décennies qui consiste à lire les journaux officiels et à lire entre les lignes de chaque article pour essayer de déceler quels sont les signes qui sont envoyés par Pékin. Le problème pour Pékin, je crois qu'ils ont annoncé leur stratégie déjà de façon très claire, comme le disait Jean-Pierre Cabestan, mobilisation des élites économiques, monter un programme de répression contre les activistes, contrôle de la presse, contrôle des universités de plus en plus, un système de censure, un système d'intimidation qui visera à déraciner les racines de l'activisme politique. Je pense que ce qu'on voit, c'est que Pékin ne comprend pas, et la Chine en général ne comprend pas les sociétés libres, les sociétés d'État de droit. Ce n'est pas un univers politique qui leur permet de comprendre ça, et donc ils tendent à avoir des machinations derrière tout signe d'opposition à leur pouvoir et à la manière de conduire les affaires. Donc ce qu'on va voir, je pense, pour Hong Kong, ce qui est important, c'est que le gouvernement et la police s'en tiennent à ce qui est permis dans le cadre du droit. C'est quelque chose qui déjà permettrait de désamorcer beaucoup au sein de la population le sentiment d'injustice et de dégradation très rapide de la situation à Hong Kong qui fournit le soutien au mouvement pour l'instant.
Jean-Pierre Gabestan, pour terminer, il y a aussi le silence de la communauté internationale. À ce jour, seul Donald Trump s'est exprimé sur Twitter en appelant Pékin à ne pas agir seul sur cette question.
C'est pas tout à fait exact. Vous avez raison de souligner le fait que la communauté internationale s'est réveillée un peu tard. Elle a réagi un peu tard aux événements qui se déroulent actuellement à Hong Kong. Mais à la fois l'Union européenne, l'Allemagne fédérale, le gouvernement français, à travers la voix du ministre des Affaires étrangères, Le Drian, ont pris position sur ce qui se passe à Hong Kong, en appelant au dialogue, justement. Et c'est ça le problème, c'est que le gouvernement de Hong Kong, et derrière Xi Jinping, le gouvernement chinois, refuse tout dialogue, toute négociation avec le mouvement. Et c'est pour ça qu'on va dans une situation qui est une véritable impasse politique, tant qu'il n'y a pas de dialogue, et tant que certaines des revendications du mouvement ne sont pas satisfaites. Je ne pense pas que la dernière revendication, qui est la réforme électorale, sera satisfaite, parce que celle-là, ça mettrait en danger, justement, l'hégémonie du Parti communiste à Hong Kong, mais les autres revendications, celles qu'a indiquées justement Nicolas Béclin, comme la mise en place d'une enquête indépendante sur la violence policière, ce sont des revendications qui peuvent très bien être satisfaites s'il y a une volonté de résoudre de manière pacifique et politique la crise actuelle qui se déroule à Hong Kong.
Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Pierre Cabestan de l'Université Baptiste de Hong Kong, Nicolas Béclin d'Amnesty International à Hong Kong. Des liens de la bibliographie et même cette émission dans son entier seront mis en ligne sur notre site franceculture.fr à la page du magazine du week-end. Merci à Chloé Rossignol, Catherine Donnet, Isée Sorel, Benjamin Teinturier qui m'ont aidé à préparer cette émission, à Émilie Valla qui la réalise et à la prise de son aujourd'hui, c'était Jean-Frédérix. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour une émission Grand Écart, comme on sait faire, journalisme d'investigation et Soudan. Mais tout de suite, il est 13h50 sur France Culture dans quelques secondes et il est l'heure de retrouver les idées claires par Nicolas Martin. Thank you.